Eh bien, bonsoir. Céline Lys, vous êtes bordelaise, journaliste de l'École de Lille. Vous avez fait Sciences Po. Vous avez été reporter à l'Express pendant une douzaine d'années, je crois. Oui. Et vous collaborez actuellement à Marie-Claire et Le Figaro.
Bah alors, elle triche parce qu'on se tutoie, en fait. Donc là, j'ai vraiment très honte. Ça, alors, fait, déjà, ça fait comme à la télé.
Qu'est-ce qu'on dit, alors?
On va faire tuer, ça va être on plus simple. En plus, on est en petit comité. Donc,
on dit Dieu. Oui, bah alors ça va.
Personne ne cafetera.
Bien. Alors, pour moi, tu es une Bordelaise atypique. Parce que, contrairement aux expatriés, si on peut dire, tu n'es pas partie à Paris pour fuir ou pour chercher quelque chose, mais plutôt avec un rôle d'ambassadeur pour apporter de la richesse de Bordeaux à Paris. Et ce n'est pas tout à fait pareil, à mon avis. Tu as été stoppée brutalement dans ton élan et traitée pour un cancer du sein. Et tu as choisi de nous faire part de cette douloureuse aventure. L'impatiente, c'est ton premier roman.
Yes.
Ton style te ressemble. Il est vif, il est pétillant, impertinent, pimenté d'ironie et d'autodérision. Tu as le sens de la formule et le titre, l'impatiente, te décrit bien, finalement.
Arraché de haute lutte, quand même, le titre.
Voilà. Oui, mais tu as bien fait. Alors, en préambule, je voudrais quand même dire que ce n'est pas un livre de nana. Ça concerne les hommes. Il ferait bien de le lire, de pencher sur la question. Voilà, même le monsieur dans la rue.
Monsieur, il regarde, est-ce qu'il va entrer ?
Alors, tout d'abord, la question qui vient naturellement, c'est pourquoi as-tu écrit ce livre ? Est-ce que c'est pour te libérer, pour témoigner ? Voilà, quelles étaient tes intentions pour écrire ce livre ?
Quand j'ai commencé à l'écrire, c'était au plus fort de la maladie. Beaucoup de gens l'ont lu ici, donc je vais faire court, mais le cancer est une maladie qui est très déconcertante parce qu'elle est dégradante. Alors quand je dis qu'elle est dégradante, elle est dégradante physiquement, bon ça c'est un fait, et elle est dégradante aussi socialement parce que ce que vous faites, ce que vous êtes, ce que vous avez été, toute la richesse qui est la colonne vertébrale de votre être, disparaît comme par magie le jour où vous avez un cancer. Dans la tête des gens qui vous entourent, vous êtes devenu le cancéreux. Vous n'êtes plus la jeune maman, la jeune reporter, vous êtes un cancéreux, enfin une cancéreuse dans mon cas. Et à la fois, c'est très dégradant parce que très vite, avec la chimiothérapie, vous ne pouvez plus rien faire. Mais quand je dis rien, c'est rien. Au début, vous avez du mal à vous lever, puis après, vous avez du mal à vous asseoir, et puis au bout d'un moment, vous avez même du mal à ouvrir les yeux quand vous êtes au fond de votre lit. Et donc, tout ce qui est votre vie professionnelle, qui est une grosse partie de sa vie, toute cette richesse-là, vous ne l'avez plus parce que vous ne pouvez plus travailler. Et moi, finalement, j'ai eu une chance, c'est que mon travail, c'est d'écrire. Ça a toujours été ça. Je sais faire d'ailleurs que ça. Et c'est peut-être le seul travail que j'ai pu continuer à faire en étant bloquée au fond d'un lit, c'est-à-dire écrire. Et après avoir subi cette série de dégradations, petit à petit, on commence par vous enlever le sein ou la prostate ou quoi que ce soit, enfin une partie de vous. Et puis la maladie arrive, et puis la chimiothérapie arrive, et puis... Ben, vous n'avez plus rien, les amis disparaissent, vous n'avez plus de vie privée parce que vous êtes vraiment trop malade, vos enfants s'éloignent parce que vous êtes tellement malade que vous ne voulez pas leur donner ce spectacle-là, vous arrêtez de travailler de force. Moi, j'ai cette chance de pouvoir continuer à écrire, ce qui est la seule chose que je sais faire professionnellement. Et du coup, je me suis mis à écrire ce livre en disant ben, « finalement, je ne peux rien faire d'autre, mais ça, c'est la dernière chose qui me rattache à ce que j'étais avant, qui me rattache enfin, à ce que je suis ». À la personne que je suis et non pas à la malade. Et ça a été le seul moyen. Au début, quand j'écris ce livre, j'ai pas pensé que ça serait édité. J'ai écrit ça au fur et à mesure de la maladie. Ça se sent d'ailleurs, je pense, quand on lit le livre. Mais à la fois, c'était juste un moyen de rester la personne que je suis et de pas devenir complètement la malade qu'on attendait que je devienne. Voilà.
D'accord. Alors, j'aimerais que tu nous parles des conséquences de ces bouleversements et de ton corps et de ton esprit. Parce que, brutalement, tu es passé de l'insouciance à la conscience, du doute à une certaine détermination, et puis de la légèreté à la gravité. Et alors, avec le recul, maintenant, qu'est-ce que tu peux en dire ?
De l'inconscience au doute, non, parce que j'ai été, par ma vie, par mon parcours professionnel, très vite, assez vite confrontée à la perte, à la mort, au deuil, Donc, j'ai jamais été quelqu'un de très insouciant. En revanche, je pense que la vie se redessine avec le sentiment terrible qu'on peut mourir, ça je le savais déjà, mais qu'on peut mourir très vite. Et très vite, c'est pas dans 15 ans, très vite, c'est dans 15 mois. Voilà, donc évidemment, ça change tout. Je pense qu'on revoit les choix de sa vie à la mesure de ce qui nous reste à vivre. Et parfois, on se dit, mais mon Dieu, j'ai fait ça, j'étais complètement inconscient. Tout à l'heure, je parlais avec une dame qui me posait des questions sur mes enfants. J'ai eu un fils aîné qui n'est pas là parce qu'il est à l'école aujourd'hui, toute seule. Ce qui me paraissait la chose la plus naturelle et la plus simple à 29 ans. Je me sentais capable d'avoir un enfant toute seule, de l'élever toute seule, de voilà. Et puis finalement, je me réveille un jour toute jeune avec un cancer et je me dis, si je meurs, qu'est-ce qui va arriver à cet enfant? Alors évidemment, il a un peu toute seule, c'est très relatif, il a un père qu'il connaît, hein. Mais je me dis, il n'a personne. Alors si, il a des gens, il a son père qui existe, il a son beau-père qui est formidable, il a mes parents, mais à la fois, la qualité de la relation qu'il a avec un adulte, elle ne sera jamais la même qu'il a avec moi, qu'avec un voisin, clairement. Et ça, c'est quelque chose c'est une chose à laquelle on ne peut pas penser quand on a 30 ans et qu'on fait des choix de vie aussi définitifs. Voilà, ça ouais. Oui.
D'accord. Alors, il y a une phrase qui m'a surprise chez toi, parce que tu es indépendante, déterminée, volontaire, tu viens de nous le dire, tu as toujours mené ta barque, ce sont tes planches courbes à toi, en solitaire, et tu écris « À partir d'aujourd'hui, je suis seule ». Alors, je m'étonnais que, justement, tu n'en aies pas fait le constat plus tôt.
Alors si, la solitude, j'en ai fait le constat très tôt. En revanche, je pense que la solitude, c'est une solitude accompagnée. C'est-à-dire on est évidemment seul tout le temps, mais on choisit les gens qu'on aime pour nous accompagner. Donc c'est une solitude. C'est bien la solitude. La solitude, ça veut dire la réflexion, ça veut dire la prière, ça veut dire la richesse, ça veut dire pas passer son temps à être coupé dans sa pensée par des gens qui viennent vous embêter, voilà. À la fois, on est entouré de gens qu'on aime et qui vous accompagnent. Je suis mariée aujourd'hui avec quelqu'un qui vit dans une autre ville que moi, et c'est un choix aussi d'être solitaire et d'être ensemble. La solitude est une solitude physique, mais ce n'est absolument pas une solitude morale. Moi, j'ai choisi une solitude relative, mais qui n'a jamais été une solitude morale, parce que j'ai toujours été accompagnée de gens que j'avais choisis, peu nombreux, mais qui marchaient à côté de moi. Et là, d'un coup, dans la maladie, on ne peut pas demander aux personnes qu'on aime de marcher à côté de soi. Parce que c'est trop violent, c'est trop dur. Et là, la solitude, elle est réelle, elle est totale. Elle ne peut pas être une solitude. C'est une solitude non accompagnée, on va dire. Parce que, un, elle est incommunicable. La douleur physique et morale est difficilement communicable, voire incommunicable. Et surtout, vous ne voulez pas imposer ça aux gens que vous aimez, ce qui est parfaitement compréhensible. Donc oui, c'est une vraie expérience de la solitude, mais une solitude différente de la solitude physique, on va dire.
Alors, quand on te lit, je crois qu'on peut parler de splendeur et misère du corps médical. Alors, le corps médical, en l'occurrence, et ton diagnostic...
Madame est médecin.
Ton diagnostic à son égard est sévère. Il paraît, à mon avis, beaucoup plus atteint que toi. Voilà, plus gravement atteint que toi. Parce que je lis, je vous ai enlevé un beau petit cancer, et devant ton étonnement, le chirurgien se permet d'insister. Bon, ça vous fait plaisir, ce que je vous dis. Alors, je te cite encore, tu dis « Finalement, la médecine rejoint la philosophie, elle sait qu'elle ne sait rien. » Et tu conclus « La médecine déteste l'humilité. » Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire de tes rapports avec le corps médical?
Alors, le corps, je ne sais pas, parce que je ne connais pas un corps médical. Mais je pense plus généralement qu'il y a le même pourcentage de gens fabuleux et de crétins finis dans le corps médical qu'il y a chez les journalistes, les postiers, les marchands de vin. Enfin bon, il y a juste le même pourcentage. La différence essentielle, c'est que quand on va voir un médecin, surtout pour une maladie grave ou censée l'être, on lui confie les clés de sa vie. Donc on attend naïvement que cette personne-là soit une personne formidable. Quand vous confiez votre paire de chaussures au cordonnier du coin, c'est un mauvais cordonnier. Dans le pire des cas, il vous rate le ressemelage. Ça, c'est pas bien grave. Quand vous confiez les clés de votre vie à un médecin qui est mauvais, il peut vous tuer. Ça change tout de suite la vision des choses. Et ensuite, j'étais assez atterrée. Alors j'ai la chance d'avoir une très bonne santé générale. J'ai jamais été malade avant ça. Donc je vais chez le médecin pas plus d'une fois par an et je prends jamais de médicaments. Et j'étais atterrée parce que pour moi ce milieu médical c'est un milieu que je découvrais puisque j'allais chez le médecin. Et ce qui m'a vraiment étonnée, c'est cette capacité à s'éloigner de la personne qu'on a en face de soi et à botter en touche dès qu'on a une demande. C'est-à-dire que dès que je posais une demande à un oncologue, un cancérologue, le type me disait « Écoutez, je ne suis pas là pour vous expliquer, mais je vais vous donner le numéro d'un psy. » Je n'ai pas besoin d'un psy. Moi, je vais très bien. J'ai besoin qu'on m'explique ce qui m'arrive. Psychiatre ne pourra rien pour moi. Et finalement, je trouve qu'on est dans un monde médical qui va de plus en plus vers la spécialisation de la tâche et qui finalement, alors par peur, par fainéantise, pour des tas de raisons, ne veut pas plus prendre l'être humain comme une personne en tant que telle. C'est-à-dire que d'un côté, il y a votre corps, c'est un morceau de barbac, et de l'autre côté, il y a votre esprit, votre âme, enfin vous appelez ça comme vous voulez. Mais ça, les médecins disent, bon, je soigne votre cancer, votre corps au pied, votre œil qui ne va pas, etc. Mais le reste, vos angoisses, vous allez voir un psy. Et moi, ça m'a beaucoup gênée parce que finalement, je ne suis jamais allée voir un psy pour autant, mais j'avais envie d'avoir un médecin qui prenne le temps de me dire, bon, écoutez, voilà, effectivement, c'est étonnant d'avoir un cancer à 37 ans, c'est étonnant, vous n'êtes pas la bonne cliente, il n'y en a pas dans votre famille, vous êtes sportive, ça arrive, voilà peut-être pourquoi ça vous arrive, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être pas pour ça. C'est bien d'en parler. Ça, à aucun moment, je suis tombée sur quelqu'un qui a eu ce discours-là. Évidemment, ça demande 10 minutes de plus. Oui, ça demande 10 minutes de plus, mais à l'aune du fait que la personne qui est en face de vous, c'est sa vie, qu'elle met entre vos mains, je trouve que ce n'est pas absurde. Et vraiment, j'ai l'impression que de plus en plus, en tout cas dans l'oncologie, la médecine va faire quelque chose de très technique et que dès qu'il y a une demande qui n'est pas de l'ordre technique, on vous envoie vers un psy. Et je trouve ça assez insupportable, finalement, parce que vous soignez un être humain. Alors, évidemment, il y a peut-être des médecins dans la salle. Enfin, tu es médecin, Fabienne, mais quand je dis ça, les médecins disent à la fois, on n'est pas là pour supporter la misère du monde. C'est vrai. Mais quand vous... je dis toujours, moi, je suis journaliste. Si je n'aimais pas interviewer les gens, je ne serais pas journaliste. Quand vous n'aimez pas faire de vin, vous n'êtes pas viticulteur. Et si vous n'aimez pas les êtres humains, vous n'êtes pas médecin. Voilà, c'est une question de vocation. Il y a plein de métiers dans la vie, hein, où... On peut être facteur, dame pipi, enfin bon, il y a plein de métiers possibles dans la vie. Quand on n'a pas la vocation à écouter l'être humain qu'il y a derrière le cas médical, je pense qu'il vaut mieux faire un autre métier. Je ne suis pas médecin, je ne peux rien dire. Tu as peut-être un truc à dire.
Non, je pense qu'effectivement, avec les années et le mode de sélection qui se passe et la technicité avancée, on va hélas pas vers de bons jours. C'était mieux, je crois que c'était mieux avant, comme disent les vieux que je suis. Alors, j'ai remarqué que, justement, tu avais mis beaucoup d'acharnement à déchiffrer l'ésotérisme du discours médical et que tu avais fouillé les racines grecques et latines pour bien comprendre de quoi il s'agissait. Alors, j'ai trouvé cette phrase de bonne foi que, apparemment, tu aimes bien. Et qui dit « Le langage est notre chute, et c'est son emploi même qui est la cause de l'angoisse ». Ceci rejoint un peu cela. Or, je remarque quand même que la maladie est allée jusqu'à s'immiscer subrepticement dans ce que tu as de plus intime, c'est-à-dire ton langage. Par exemple, tu dis « Je suis aplasique, je ne fabrique plus rien, ni article de presse, ni même sentiment ». Alors là, moi, je serais tentée de voir dans cette attitude, tu vas peut-être bondir. Tu vas peut-être bondir, mais moi, j'y vois quelque chose qui s'apparente au syndrome de Stockholm, parce que tu as adopté le langage de tes bourreaux. Alors, est-ce que tu t'en es rendu compte? Et est-ce que tu saurais l'expliquer?
Ah oui, non, c'est un jeu d'écriture, en fait. C'est un jeu d'écriture. À un moment, je mets finalement. Moi, ça m'a fait rire, cette espèce de jargon. La première dame que je suis allée voir pour la chimiothérapie, et j'ai fui, et j'ai bien fait, à mon avis, a commencé à jargonner devant moi. Et puis, au bout d'un moment, je lui ai dit « Est-ce que vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît ?» Elle m'a regardée comme si j'avais dit un gros mot, en me disant « Mais de toute façon, vous n'êtes pas médecin, vous ne comprendrez pas. » Alors, certes, je ne suis pas médecin, mais je ne suis pas manchotte non plus. Donc, je lui dis « Oui, je ne suis pas médecin, mais je ne suis pas complètement stupide. » Donc, vous m'expliquez, je prends des notes. Et je vais essayer de comprendre ce que je peux comprendre, et je viens vers vous, et puis après, on va en discuter. Elle m'a regardé comme si j'avais dit un gros mot, parce qu'il n'était pas question qu'elle me reçoive une deuxième fois, parce que 10 minutes en plein mois d'août, c'est déjà un exploit. Et je me suis dit, après, ben, finalement, tous ces mots dont j'ignorais même l'existence, je vais chercher d'où ils viennent. Parce que je pense qu'en cherchant archéologiquement, quand on comprend l'archéologie des mots, on définit mieux ce qui nous arrive et on a moins peur quand on sait. Ça, c'est un truc de journalisme. Et quand on sait ce qui se passe, on a toujours moins peur. Et donc, je me suis amusée, ça a l'air rigolo, hein, mais j'ai pris les mots de ce qui m'arrivait petit à petit et j'ai essayé de les déchiffrer, de leur ouvrir le bide et de voir ce qu'il y avait à l'intérieur pour comprendre. Alors, pourquoi le cancer est un cancer ? Parce que le cancer ressemble tout simplement à un gros crabe. C'est une masse centrale avec des espèces de pattes autour. Bon. Et c'est pour ça que le cancer, le carcinome, s'appelle cancer. Et une fois que j'ai su pourquoi le cancer s'appelait cancer, ben d'un coup, je trouvais ça beaucoup moins inquiétant. Parce qu'avoir un... Imaginer un crabe, c'est moins flippant qu'imaginer un truc indéfini. Voilà. Donc je me suis dit, ben, à chaque fois, ça va être ma manière de faire. Je vais reprendre les mots qu'on me dit que je ne comprends pas. Et je vais essayer de... Moi, je suis philosophe de formation, hein, je ne suis pas du tout médecin. Donc je vais essayer de reprendre ces mots-là en faisant de l'archéologie linguistique. Pourquoi ce mot-là ? Voilà.
Ouais. Mais en plus de ça, tu les as fait tiens, parce qu'après, tu les utilises carrément. C'est ça que
je vois.
Oui,
c'est comme les enfants, quand on a un mot nouveau, on le prend, puis on le met un peu dans tous les sens, on se dit, voilà, c'est une manière de les mettre à sa main.
Oui, oui, d'accord.
C'est moins effrayant quand on sait ce que veut dire aplasie, de dire aplasie, de savoir ce que c'est qu'une aplasie. C'est moins effrayant une chimiothérapie, une fois qu'on a compris ce que ça veut dire. Alors, ça fait toujours aussi mal, hein, c'est pas... Mais c'est moins effrayant d'arriver à faire sien ces mots qui sont des mots jargonnants, qui sont des mots de médecin. Du coup, on se réapproprie ce qui nous arrive aussi.
D'accord. Voilà. Et est-ce que tu les utilises toujours ?
Non, c'est fini. Moi, maintenant, je ne suis plus malade, donc j'ai oublié.
D'accord. Très bien. Tu les as relégués dans les tiroirs. Alors, quand on te lit un peu attentivement...
Ce qui est le cas de tout le monde ici.
Voilà.
Ça va sans dire.
Moi, il m'a semblé déceler un espèce de rapport curieux avec les anges, que tu entretiendrais avec les anges. Alors, peut-être que je me trompe complètement, mais enfin, bon, tu as un fils que tu appelles volontiers mon ange, ça c'est relativement banal, dirons-nous, qui s'appelle Gabriel, c'est pas non plus extrêmement exceptionnel. Après, tu te dis marathonienne et tu dis il y a de l'ange dans chaque coureur. Bon. Ensuite, tu empruntes au langage tauromachique l'expression espagnole « tener el angel » pour affronter la bête. Enfin, tu vas voir les ailes du désir pour la centième fois,
au moins.
Dans, voilà, dis-tu, dans un petit cinéma. Donc, pour toi, le saut de l'ange, là, est-il une révolte ou le plaisir de la transgression ? Enfin, qu'est-ce que tu fabriques avec les anges, là ?
Qu'est-ce que je fabrique ? Le thème de l'ange, c'est-à-dire de l'esprit, moi, m'a toujours fasciné. Bon, ça, depuis, c'est pas d'hier, et c'est pas pour rien que mon fils s'appelle Gabriel par ailleurs. Je pense que quand on est malade, le corps s'efface. Le corps s'efface physiquement, puisque le corps est en train de mourir, donc maigrit. Et le corps s'efface parce que c'est tellement de douleur que finalement, on a vraiment très envie qu'il s'efface parce que s'il s'efface, on a moins mal. Et cette thématique de l'ange, elle est passionnante parce que finalement, elle montre qu'on peut rester quelqu'un de debout en ayant de moins en moins de corps. Alors, qui fait l'ange fait la bête, évidemment. Il ne s'agit pas de devenir un souffle, un pur esprit. Ça serait trop merveilleux. Mais... oui, la thématique de l'ange est essentielle. Je le disais souvent à mon mari pendant notre chambre est dans une soupente. Et il y a un Vatislas qui s'ouvre. Et comme je passais des journées et des journées enfermées dans cette chambre sans pouvoir me lever, je disais souvent, tu vois, l'échelle est jetée. On prie beaucoup plus qu'on est malade parce que déjà, on a le temps. C'est un truc tout bête, mais on a vraiment le temps. On est très seul, donc on n'est absolument pas entouré de tous les bruits de la vie quotidienne qui nous empêchent de réfléchir, qui nous empêchent de prier. Et c'est vrai que ce moment a été un vrai moment de... quand je parle de l'ange, je parle pas juste de l'image littéraire de l'ange, qui est très intéressante en soi, mais c'était un vrai moment de foi et un moment d'approfondissement de la prière, parce que c'est comme aller au désert, ou c'est comme aller dans un monastère, où... On n'est plus qu'un pur esprit parce qu'à aucun moment, pendant toutes ces épreuves, le corps n'existe autrement que par la souffrance. C'est-à-dire ça veut dire qu'on passe 3 mois, 6 mois, 1 an, parce que parfois ça dure beaucoup plus de temps, avec rien d'agréable. Rien d'agréable ne vous arrive. Imaginez, pendant 6 mois, il n'y a rien d'agréable qui vous arrive. C'est-à-dire que votre corps, il souffre, vous ne mangez plus, les odeurs sont toutes désagréables. Il n'y a aucun moment, il y a aucun moment émollient. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui sort de cette espèce de tunnel de douleur. Donc, votre corps étant seulement douleur, vous vous tournez vers autre chose. Et c'est des moments importants, je pense, la prière et la foi dans ces moments-là. Ouais. Alors, je ne suis pas catholique, je suis protestante. Je le dis aussi, c'est important pour les anges.
Le cancer du sein chez la femme a ceci de particulier qu'il est un peu assimilable à l'effet domino ou papillon chez les anglo-saxons. Et que l'amputation, même partielle, du sein chez une femme l'atteint quand même dans sa féminité au plus profond d'elle-même, quand bien même le sein serait superficiel. Et contrairement aux hommes qu'une calvitie dérange moins, c'est quand même une partie de la séduction qui part avec les cheveux, il faut bien le dire. Enfin, la ménopause précoce, éventuellement, détruit tout espoir de maternité. Enfin, c'est quand même un bouleversement important. Et jusqu'à ce que ton fils te dise « tu vas être moche », ce qui est quand même le comble dans le désarroi. Alors, malgré ta rébellion, est-ce que tu as eu l'impression que tu étais remportée par cette espèce de torrent furieux, ou est-ce que tu as pu ramer un peu à contre-courant, ou essayer de maintenir la tête hors de l'eau, là ?
C'est pas dans moi qu'il faudrait demander, c'est
dans
à mon mari.
Cette cascade.
Mais les cheveux, ça m'a pas bouleversée. Même j'avais acheté deux perruques. Ma belle-mère et là, on les a achetées ensemble, que j'ai jamais mises. Oui, j'ai dû mettre deux fois peut-être. Enfin, vraiment jamais, parce que j'étais. Je suis vraiment pas quelqu'un qui est dans la séduction. Je l'ai jamais été, je le serai jamais. Donc déjà, ça simplifie beaucoup les choses. J'ai la chance d'avoir l'âge que j'ai. Et je pense que j'aurais eu 10 ans ou 15 ans de plus, l'absence de cheveux aurait été beaucoup plus préjudiciable. Voilà, j'avais plus de cheveux, c'était moi avec plus de cheveux. Enfin, j'ai physiquement, ça n'a pas été des moments, dans mon rapport à mon image, trop difficile, parce que, un, globalement, je m'en fous un peu, il faut le dire, et deux, c'était juste moi. Ça m'a pas... Je ne me suis jamais définie par une longueur de cheveux, par le fait d'être maquillée, pas maquillée. Je m'en fous. C'est pas moi, ça. Donc, c'était moi. À un moment, je le mets dans le bouquin, c'est moi réduite à l'essentiel, quoi. C'est moi, c'est mes yeux, c'est mon nez. Bon, c'est pas très joli ces temps-ci, ça sera mieux demain. Mais c'est pas, ça n'a jamais été important. C'était beaucoup plus important pour mes enfants, évidemment. Enfin, pour mon grand, parce que mon petit était petit. D'ailleurs, je ne le dis pas dans le livre, mais les seules fois où j'ai mis la perruque, c'est quand j'avais perdu tous mes cheveux. Et je ne voulais pas traumatiser mon fils cadet qui avait 2 ans. Donc tous les matins, je sortais du lit, ou il arrivait dans le lit parce qu'il arrive tôt, je me planquais, je me mettais ma perruque, et puis un jour, on a une maison où il y a une alarme, l'alarme a sonné, je suis allée en courant, j'étais sous la douche, j'avais pas de cheveux, je suis allée en courant fermer l'alarme, et là je suis tombée sur mon fils, qui m'a vue avec mon crâne parfaitement chauve, alors que 10 minutes avant, il m'avait vue avec ma perruque, et ce petit bout de qui avait même pas 3 ans à l'époque, me regarde et me dit « Oh maman, t'es allée chez le coiffeur, c'est joli !» Voilà, c'est tout. C'est la simplicité d'un gamin de 2 ans. Il s'en fout, quoi. Je suis juste sa maman sans cheveux. Je pense que mon aîné, c'était plus difficile, mais c'est pas le fait que j'avais pas de cheveux, c'est que vont penser les copains. Voilà. Non. Mais moi, ça m'a pas. Et c'est étrange la manière dont on le ressent, parce que je le raconte pas dans le livre non plus. Mais pendant la chimiothérapie, j'étais comme j'étais. Et quand j'ai commencé la radiothérapie, donc après la chimio, j'avais beaucoup, beaucoup maigri. Mais je me sentais bien. Moi, c'était fini. Je me sentais guérie. Je recommençais à avoir une vie normale. Je me suis réinstallée chez moi à Paris. J'ai recommencé à travailler doucement, mais à travailler, à prendre le métro, à faire du vélo. Et j'ai commencé une radiothérapie au centre Pompidou, à Paris, à côté de chez moi. Et pour une radiothérapie, évidemment, comme vous passez sous une machine, tous les jours, on vous met des espèces de coups de crayon avec des flèches, des machins de toutes les couleurs pour que la machine reconnaisse exactement votre sein par rapport au sein d'à côté. Et ça, mon mari trouvait ça horrible. Alors que pour moi, c'était complètement... Enfin, c'était fini, j'étais pas malade, et c'était complètement dérisoire par rapport à ce que j'avais avant, où vraiment, j'étais un cadavre sur pattes. Alors que là, je me sentais mieux. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment la manière qu'on a de le voir est complètement différent de la réalité des choses. Quelque chose de complètement dérisoire, comme moi, un coup de stylo, me faisait rien et ça effrayait mon mari. Le fait de ne pas avoir de cheveux, moi, je m'en fichais. Et la voisine, ça l'aurait traumatisée. Le rapport qu'on a à son corps et la vision de son corps est vraiment très différente selon les gens.
Oui, c'est vrai. Le cancer emballe la pendule humaine. Alors, tu en fais la constatation, je te cite. « C'est une chose de penser que l'on va mourir, c'en est une autre de penser que l'on risque de bientôt mourir. » Alors, aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression d'avoir arrêté la pendule, maîtrisé l'horloge et la remise dans le droit chemin ?
Non, parce que je suis en rémission, donc je ne suis pas guérie déjà. Et je pense que le cancer ne rend pas plus grand, ne rend pas plus fort, ne rend pas plus extraordinaire. C'est juste une expérience difficile à vivre, de beaucoup de solitude. En revanche, ça change une chose qui est absolument essentielle. C'est que ça rappelle qu'effectivement, on peut mourir demain. Alors, quand on va mourir, on en est tous plus ou moins conscients. Mais demain, ça change un peu tout. C'est-à-dire demain ou dans une heure. Ça veut dire que demain matin, je vais me réveiller et puis je ne pourrai pas plus prendre le café parce qu'à l'heure du café, ça se trouve, je serai morte. Voilà. Ça change juste tout. Et en tout cas, on a tous, je ne veux pas donner mon expérience comme un truc extraordinaire ou unique, etc. Mais enfin, en tout cas, moi, ça m'a appris une chose essentielle que j'avais un peu, que je savais, mais que j'avais un peu oubliée. C'est qu'on, c'est vraiment absurde de perdre son temps à faire des choses qu'on n'aime pas, à faire des métiers qu'on n'aime pas, à rencontrer des gens avec qui on n'a rien en commun, rien à dire. Mon taux, on va dire, de rusticité était déjà assez important avant, mais mon taux de rusticité est de plus en plus important avec le temps. Je ne supporte plus les cons, quoi. Donc, maintenant, il fut un temps où j'allais déjeuner avec des gens que j'aimais pas parce qu'il fallait les voir. Maintenant, j'ai tendance à leur dire non parce que j'ai rien à te dire, donc je vois pas pourquoi on déjeunerait ensemble. Alors, ça n'a pas allergé le cercle de mes amis, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ma vie est beaucoup moins pleine de gens qui ne me servent intellectuellement à rien. Voilà.
Alors justement, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, tu as été confrontée, révoltée par l'attitude de l'autre. Parce que les autres sont désarmés, ils sont désorientés, ils sont blessants, souvent, et te proposent des lieux communs, quand même vaguement assassins, dans le genre « le cancer change la vie en mieux ah, », jusqu'à « c'est incroyable, là je suis restée assise, vous n'avez pas honte, parce que tu te promenais dans le métro sans perruque, assénée par une dame
». De certain âge, qui devait avoir peur que la même chose lui arrive. Tout le
voilà. Temps. Donc c'est ce que je pensais. Est-ce que tu ne penses pas quand même que ces questionnements, c'est quand même leur propre angoisse qu'ils projettent par un effet miroir et qu'ils essaient de se... Ils sont pris complètement au dépourvu. Et d'ailleurs, toi-même, tu as été prise au dépourvu parce que tu as rencontré une patiente dans le même cas que toi. Toi, tu avais pris un petit peu plus de recul. Et là, tu l'avoues toi-même. Tu lui dis, tu t'interroges et tu dis, que lui dire ? Courage. Toi-même, tu ne sais pas quoi lui dire.
Oui, je pense qu'on est souvent... On est souvent sans armes face à la souffrance d'autrui, ce que, évidemment, très gâtée par la vie, je m'en étais pas vraiment rendu compte. Et c'est étrange parce que, d'un coup, quand j'étais malade, j'étais devenue transparente. Et j'aurais adoré que des gens viennent vers moi et me disent « Madame, courage, vous allez y arriver », etc. Et finalement, les gens autour de moi ont eu juste la même attitude que moi j'avais tous les jours quand je croisais quelqu'un d'handicapé ou quelqu'un qui était en souffrance. C'est-à-dire que vous vous dites... Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je lui propose de l'aider ? Est-ce que je ne propose pas ? Est-ce que ça va le gêner ? Est-ce que ça va la vexer ? On est complètement sans armes face à ça. Comment autrui va répondre à notre proposition d'aide ? Bon, alors maintenant, je suis très à l'aise, j'y vais directement et je propose mon aide systématiquement. Je demande si ça va, même à quelqu'un qui ne me demande rien. Des fois, je me fais envoyer paître, mais pas tout le temps. Mais je ne dis pas dans le livre, à un moment, je faisais mon marché... au supermarché du coin à Paris, donc j'avais pas de cheveux et j'étais vraiment en mauvaise position, je traînais mon caddie. Et là, il y a une dame qui est venue me voir et qui m'a fait une bise et qui m'a dit « Courage, vous allez y arriver ». Cette bonne femme, je la connaissais pas du tout. Et ça m'a fait un bien. J'y ai pensé pendant une semaine. Ça allait pas, je me traînais dans l'escalier pour monter l'escalier, j'y arrivais pas parce que quand on monte l'escalier en chimiothérapie, c'est 3 marches, je m'arrête 10 minutes, je m'assois. 3 marches, je m'arrête 10 minutes, j'assois. Enfin, il faut quand même 1 heure pour monter un escalier. Et là, cette dame que je connaissais pas, ben voilà, ça m'a fait du bien pendant 3 bonnes semaines. C'est un petit viatique qui était dans un petit coin de mon cœur. Et j'y pensais, je me disais, bon, ben, elle m'a dit courage, c'est bon, je vais y arriver, quoi. Et je me dis que c'est ce qui arrive tous les jours aux gens qui ont des handicaps et que parfois, c'est simple d'y aller tout simplement, comme un enfant peut aller vers vous en disant, mais qu'est-ce que t'as ? Un gamin est venu me voir au supermarché en me disant, mais qu'est-ce que t'as ? T'es malade, madame ? Et ça fait du bien parce qu'un gamin, il dit, qu'est-ce que t'as ? J'aurais beaucoup aimé que des adultes me disent, vous vous sentez bien ?
Mais ça tu le dis pas là. La réflexion de cette personne. Tu restes très négative.
Alors. Non, parce que j'ai rencontré cette dame après avoir fini ça. Donc à la fois, voilà, je peux pas faire cancer le retour.
Bon, parce qu'ils sont tous épouvantables, mais il y en avait au moins
une. Il n'y a pas des gens épouvantables.
D'accord. Quels sont les auteurs et les livres? Parce que tu pouvais écrire, mais tu as quand même un peu lu.
Non.
Pas du tout.
Pas du tout, non.
Personne. Alors, ou les souvenirs des livres qui t'ont accompagné?
Non, mais c'est des grands moments de solitude, parce que finalement, tout le monde réagit différemment à la chimiothérapie. Hein, mais ça a été des moments tellement violents que je pouvais pas lire, je pouvais pas regarder la télévision, je pouvais pas écouter. Tout apport extérieur devenait une torture. La musique, je pouvais même pas écouter de musique. Le fait d'entendre un son, c'était une torture. Je pouvais plus parler à mes amis au téléphone qui me téléphonaient, parce que le fait de prendre l'appareil et de parler, c'était tellement épuisant que je ne pouvais plus parler. Donc ça veut dire quand je dis qu'il n'y a aucun plaisir ou aucun moment pendant cette maladie, c'est vrai, parce que même les plaisirs intellectuels dont on pense qu'on peut continuer à les avoir, ils vous sont interdits. Regarder un film, c'est pas possible. Les yeux sont tellement desséchés que vous pouvez pas les ouvrir, quoi. Donc, le seul jus que j'avais, je le gardais pour écrire, et voilà.
D'accord. Mais sinon, tu n'as pas été accompagnée par la pensée de quelqu'un, ou par les poèmes de bonne foi, puisque tu aimes ça, ou par Gracq, pour qui tu as pleuré à la mort, à sa mort. Enfin bon, il y avait
Si, parce que c'est pas être accompagnée, mais c'est je me suis rendu compte d'un truc. Alors ça fait hurler les gens quand je dis ça, mais je pense que les auteurs, moi je suis passionnée de littérature, hein, mais les auteurs, les philosophes, pour moi sont des gens qui ont été aussi présents et aussi existants avec la même présence physique qu'un être humain. Je veux dire qu'un voisin. J'ai été beaucoup plus bouleversée par le décès de Gracq que pour le décès de mon grand-père. J'ai honte de le dire, mais c'est vrai, j'adorais mon grand-père. Mais c'est quelque chose... Gracq, c'est quelqu'un qui m'a révélé la littérature. Enfin, j'aurais rêvé de le rencontrer. Et c'est la colonne vertébrale de qui on est, ces gens-là. Je veux dire, la poésie, c'est la colonne vertébrale de notre âme. Et la littérature, c'est la colonne vertébrale de notre être. Et moi, la philosophie, c'est la colonne vertébrale de ma pensée. Donc, ces gens-là, ce n'est pas du souvenir. C'est eux qui te tiennent debout quand tu n'as plus que ça qui te tient debout.
Oui. Donc, d'une certaine manière, ils t'ont accompagné.
Oui.
Hein? D'accord. Alors, tu dis quelque chose d'étrange sur l'amitié. Tu dis « L'amitié est un étrange contrat entre deux êtres qui acceptent de s'aimer, mais de s'aimer à peine. » Et tu évoques la fragilité de la porcelaine. Alors, je pensais quand même que tu étais une amie indéfectible. Est-ce si fragile que ça, l'amitié chez toi? Il faut faire gaffe.
Hein. Non, je pense que l'amitié, c'est un contrat... C'est pas un contrat social d'ailleurs, c'est un contrat sentimental, mais qui est beaucoup plus fragile que le vrai contrat sentimental comme un mariage. C'est que, à part les rapports sentimentaux, il n'y a rien pour nous raccrocher. On ne peut pas se rabibocher sur l'oreiller, ça ne fait pas partie des choses possibles, ça. Donc, je suis très très exigeante en amitié, ce qui explique que j'ai peu d'amis, mais. C'est un rapport qui doit être tendu ou distendu, mais un rapport qui doit être parfait. Il n'y a pas de place pour la médiocrité dans un vrai rapport amical, et c'est difficile à tenir. Oui.
Ouais. Tu dis, j'ai préféré l'action à la pensée, sans doute un mauvais choix.
Oui, ça c'est clair.
Alors, qu'est-ce que tu choisis maintenant?
Est-ce qu'on choisit quelque chose, ou est-ce que ce sont les choses qui nous choisissent? Je pense que ce sont les choses qui nous choisissent. Et là, je viens de finir un deuxième roman, donc pour le moment, c'est le roman qui m'a choisi. Le prochain, je ne sais pas ce que je ferai. Je ne sais pas vers où va aller ma vie, j'en sais rien.
Je ne sais pas. D'accord. Alors justement, on va parler de l'écriture, parce que ça a toujours été ta passion. Tu l'as jusque-là fait pour les autres, et maintenant, tu as bien l'intention de le faire pour toi. Alors, tu avais évoqué une histoire que tu aurais voulu écrire, de la fille bloquée pour toujours au niveau des départs dans un aéroport. Voilà. Alors, est-ce que la fille est toujours bloquée dans son aéroport?
Ça, c'était un film qui était complètement naze avec un type qui jouait dans Forrest Gump, là, l'auteur américain. Je regarde, personne ne sait. Ah, qui était bloqué, qui était un immigrant, je ne sais plus de quel pays, qui n'existe pas d'ailleurs. la Moldavie supérieure et qui se retrouvait bloqué dans le salon d'un aéroport parce que son pays était en guerre contre les États-Unis. Enfin bon, bref, je vous la fais courte. Et c'était le film était c'était vraiment nul. En revanche, l'idée était très belle. Finalement, quelqu'un qui est bloqué en zone internationale et qui ne peut jamais arriver quelque part. C'est-à-dire qu'il n'est plus au départ, il n'est plus aux arrivées. Et je pense que le purgatoire, ça peut ressembler à ça. Voilà.
C'est un peu l'histoire du Chinois qui était bloqué à l'aéroport de Tokyo récemment, là, parce que la Chine ne voulait pas le récupérer.
Voilà, ça,
il
c'est...
était entre l'arrivée pas, et la douane. Même.
On n'est même pas apatride, on est personne.
Voilà. Ouais, ouais.
Ouais, c'est flippant. Ouais.
Et justement, alors, à propos d'identité, tu dis, est-ce qu'on s'en remet ? Est-ce qu'en tuant le cancer, on ne tue pas aussi en soi cette fragile insouciance du bonheur ? À bien y réfléchir, je préférais l'ignorance.
Ah ben ça, c'est la caverne de Platon. Hein. C'est quand on sort et qu'on voit qu'on cesse de prendre les marionnettes pour des êtres vivants et qu'on remonte au soleil et qu'on voit que ça brûle, dans la caverne de Platon, les personnages de la caverne redescendent et repartent dans leur caverne. Hein. C'est humain. La lumière peut. La connaissance, c'est quelque chose qui brûle et qui fait souffrir. Donc parfois, on est contraint d'y aller parce qu'on n'a pas trop le choix. Mais. L'être humain est un être faible et donc va toujours vers économiquement le truc le plus simple.
Ouais. Alors, que penses-tu des dérives à propos du mot cancer, de ses contournements, puisque maintenant il n'y a plus de sourds mais des malentendants, donc il n'y a plus de cancérologues, il y a des oncologues, il y a tout un cheminement du langage là, d'évitement du langage, donc pourquoi le cancer n'en ferait pas partie ? Alors maintenant on ne dit plus ça.
Je pense qu'on est dans une. On vit dans une
hypocrite.
Époque. C'est plus que de l'hypocrisie. Je pense qu'on vit dans une époque. À un moment, j'avais essayé d'écrire un essai. Bon, j'ai laissé tomber, je ne suis pas assez cultivée pour ça. Mais qui s'appelait La vie à blanc. Finalement, j'ai l'impression qu'on est dans une époque qui est chargée à blanc, dans une espèce d'arme. Chargée à blanc. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on vit des choses et puis finalement, c'est pour de faux. Et quand quelque chose vous arrive vraiment, vous vous trouvez à poil parce que vous êtes tellement peu habitué à faire face à une vraie situation de crise qu'on ne sait plus comment s'y prendre. Et comme on a peur de ça, on réhabille la réalité avec les oripeaux d'une langue qui n'est pas la vraie langue, la nouvelle langue. Alors, on ne dit plus perruque, on dit...
prothèse capillaire.
Prothèse capillaire, voilà. Prothèse capillaire, extraordinaire. Je préfère une perruque. Quoi. Une prothèse capillaire, c'est quoi ? J'ai l'impression d'avoir un truc.
C'est épouvantable.
C'est assez épouvantable. Et puis, les mots font tellement peur, le mot cancer, quand même, fait tellement peur... que du coup, on l'habille de tas de choses différentes. Alors moi, je dis au début, alors j'avais une grosseur, et puis un nodule, et puis bon, une fois qu'on me l'a enlevé, on m'a dit « vous avez un cancer ». C'était bien, je m'en doutais un peu, parce qu'après après une visite chez l'oncologue, si vous n'avez pas compris que vous êtes un cancer, vous êtes un peu taré quand même. Mais bon. Et à la fois, c'est cet évitement des choses, c'est le reflet de la peur. Les gens sont terrorisés face au cancer. Et moi, je ne l'ai pas trop mal vécu. Je n'ai pas été terrorisée. Je sais que c'est une maladie qui est courante, malheureusement, qui se soigne très bien à mon âge et dans le cas d'un cancer du sein. C'est une maladie... Il y a des tas de maladies plus graves. Alors, moi, il se trouve que je suis journaliste, donc j'étais grand reporter pendant des années. Alors, des maladies graves, j'en ai vu et j'ai vu beaucoup de monde souffrir de trucs terribles. Donc, j'ai relativisé à ça, ça ne me faisait évidemment pas plaisir, mais c'est une maladie comme une autre qui se soigne, qu'il faut prendre en main. Je ne mesurais pas du tout la douleur du remède, ça c'est vrai. Mais en revanche, on m'a dit « vous avez un cancer ». Un, je m'y attendais bizarrement, et puis deux, ça ne m'a pas effrayé en soi, le mot ne m'a pas effrayé. Et après d'avoir parlé avec des amis médecins, ils me disaient « mais tu sais, on ne le dit pas aux gens parce que même des gens très cultivés, même des gens, parfois des médecins eux-mêmes, on leur dit cancer, mais on leur dit va te jeter par la fenêtre, tu vas guérir, ils vont se jeter par la fenêtre. Je pense que c'est une maladie qui n'est pas de l'ordre du rationnel, c'est une maladie qui est de l'ordre de l'irrationnel. La peur qu'elle engendre est de l'ordre de l'irrationnel. Et quand c'est de l'ordre de l'irrationnel, c'est beaucoup plus difficile de l'affronter, c'est beaucoup plus difficile d'en guérir parce que c'est terrorisant. Ce qui est irrationnel terrorise.
Bien sûr.
On a peur du loup-garou, on a peur du grand méchant loup, on a peur... On n'a pas peur de quelque chose qu'on arrive à définir. Enfin, en tout cas, on a moins peur de quelque chose qu'on arrive à définir. Et le problème, je trouve, c'est qu'au lieu... de prendre les gens qui ont des cancers et de leur dire, voilà, vous avez un cancer, voilà ce que ça signifie. C'est ça, 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 voilà ce que vous risquez, c'est ça, ça, ça. On se trouve dans une espèce de déni total du corps médical. Alors, je ne le raconte pas dans le livre, il ne fallait pas en faire non plus des pages et des pages. Mais le premier, enfin, le chirurgien qui m'a opéré, je prends rendez-vous avec lui juste un peu après, et il me dit, bon, il vous faut une chimiothérapie, il vous faut ci, il vous faut ça, bon, très bien. Et je devais partir en reportage, je ne sais plus où d'ailleurs, à Madagascar, je crois, 3 mois après. Et c'est un truc que j'avais vraiment préparé bien à l'avance. Madagascar, ce n'est pas un pays facile, on n'est pas dans des conditions sanitaires très bien, etc. Et je lui dis, mais dans 2 mois, je dois aller à Madagascar, est-ce que vous croyez que ça va être possible? Le type dit, oh, mais pas de souci. Je lui dis, malgré la chimio, il me dit, oui, non, mais attendez, il y a des tas de gens qui travaillent en chimiothérapie. Bon. Donc moi, je me suis dit, c'est bon, ben, je vais partir à Madagascar, j'étais contente. Je sors de son cabinet et sa secrétaire me dit, vous avez demandé un arrêt maladie? Moi, je lui dis, non, il m'a dit que je pourrais aller travailler. Elle dit, non, non, alors, vous allez vous arrêter tout de suite et vous demander un arrêt maladie. Il est hors de question que vous partiez à Madagascar après votre deuxième chimiothérapie. Et grand bien m'a fait, j'étais au fin fond de la deuxième, j'étais au fin fond du lit à Bergonier avec 42 fièvres et en pleine aplasie. Je pense que j'aurais été à Madagascar, je serais morte à l'heure qu'il est, quoi. Ce que je veux dire, c'est que ce médecin, il savait très bien qu'après une chimiothérapie, j'étais incapable de partir à Madagascar en reportage ou que ce soit. Il n'a pas eu le courage de me dire, écoutez, madame, ça va être très violent, vous avez moins de 40 ans, la chimiothérapie, c'est un truc de chien qu'on va vous faire parce que vous avez moins de 40 ans. Donc, partez du principe que pendant 6 mois, vous êtes au fond de votre lit. Mmh. Ben ça, il a juste omis de me le dire. Il le savait.
Oui, bien sûr.
Ça voulait dire, ben, pas se prendre un peu de temps et passer du temps avec moi pour m'expliquer ce que serait ma vie du jour au lendemain. Voilà.
Toujours, on revient toujours à ça. Alors, est-ce que tu peux nous parler là, un tout petit peu de ce que tu as en cachette dans ton sac là, parce que tu n'as pas l'intention d'en rester là. Le cancer, ça va bien 5 minutes, maintenant tu passes à autre chose.
Alors, c'est un roman. Je me suis toujours demandé, vous vous souvenez tous de Monica Lewinsky? Fatalement. Bon, c'est pas du tout un livre sur Monica Lewinsky. Mais moi, je me suis toujours demandé, quand j'étais plus jeune, c'était il y a 10 ans, ce qui passait dans la tête d'une femme qui était absolument inconnue le lundi matin, c'est-à-dire que personne ne savait qui était Monica Lewinsky, et qui, après que l'affaire Clinton soit sortie, est devenue quasiment la personne la plus connue au monde. En 3 jours, cette fille dont personne ne connaissait l'existence était devenue sur Google aussi téléchargée que Jésus-Christ ou que les Beatles. Et je me dis, ça doit être quand même incroyable, cette histoire. Comment une jeune femme normale peut se retrouver au centre de l'attention mondiale du jour au lendemain? Qu'est-ce qui reste d'elle? Comment elle tient debout? Comment ça se passe? Je parle pas du tout du fond de l'histoire, de Clinton, je m'en fous, ça, c'est pas important. Et il y a 10 ans, ça me trottait par la tête. Et là, quand on voit aujourd'hui, à travers les médias qui sont des faux médias, c'est-à-dire les médias comme, enfin, qui sont des vrais médias, mais qui sont pas des médias de professionnels comme Internet, Google, les sites, etc., comment quelqu'un qui n'est personne peut devenir, par la grâce de ce nouveau média Internet, une des personnes les plus connues au monde, parmi les jeunes en tout cas. Moi, je suis effrayée. Chaque fois que je prends le métro, tous les gamins autour de moi, ils ont des trucs genre Scoop, Gala, etc. Et c'est alors à la une, la star machin nous présente son nouveau fiancé. Alors, la star machin, je ne sais même pas qui c'est. J'en ai jamais entendu parler. Je regarde peu la télé. Et finalement, on a des espèces de personnages qui sont connus incroyablement à toute vitesse et jetés aussi vite. Et je pense que je me suis mis dans la tête d'une femme qui aurait pu être Monica Lewinsky, mais qui n'est pas elle, enfin, on s'en fiche de ce qui allait d'ailleurs, et qui se retrouve au centre de l'attention mondiale parce qu'elle a eu une histoire d'amour avec un type avec qui elle n'aurait pas dû avoir une histoire d'amour, et qui voit le monde s'effriter autour d'elle et le monde s'interroger sur elle sans la connaître vraiment puisqu'elle se cache.
Bien
voilà,
sûr.
C'est un peu compliqué, mais c'est très simple quand on le
dit. D'accord, d'accord. Tout un programme, donc je crois qu'on va pouvoir revenir bientôt.
Voilà, en septembre, j'espère.
Bon, mais alors, écoute, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Après, on va laisser la salle un peu, mais je voudrais conclure un petit peu.
Vas-y, conclure.
Te dire que après cette éprouvante aventure, parce qu'on mesure très bien le degré de délabrement que cela entraîne, moi, je voudrais saluer là, puisque tu as du public, on va le faire, le panache. avec lequel tu as surmonté cet événement. Alors moi, je ne suis pas capable parce que je ne sais pas très bien parler, mais Victor Hugo, il a dit un truc. C'est la fin de Mazeppa, des derniers vers. Il dit « Enfin, le terme arrive, il court, il vole, il tombe et se relève roi. » Alors moi, je voudrais dire ce soir que la reine, c'est toi.
Moi, c'est gentil.
Voilà. Et puis maintenant, merci Céline.
J'étais très aidée, je le dis, parce qu'il est là, parce que aux autres conférences, mais mon mari est en Bordelais, mon mari est là derrière. Et pour se relever, c'est bien d'avoir quelqu'un qui marche à côté.